Alors bonjour à toutes et à tous, il est 16h59, pratiquement 17h, nous sommes le mercredi 22 mars 2023. Vous écoutez Au fil des pages, vous êtes sur Radio Libertaire, donc tout est parfait. Merci de nous rejoindre sur ces ondes qui, j'espère, sont vos ondes favorites. Alors notre émission aujourd'hui, eh bien, il y a Frédéric, il y a Marie, il y a Dominique, Francis et nos deux invités, Marie-Claire Calmus, pour quelques poésies issues de son dernier livre, Entre Vernon et Aimante, et puis Hugo Roussel-Nérini pour nous présenter les actes d'un colloque consacré à la Commune de Paris au prisme du droit. Bon. Il y présente plus particulièrement un personnage un peu oublié, Eugène Proto. On parle beaucoup de Jules Vallès, on parle beaucoup de Varlin, etc. Mais Eugène Proto. Et je vous rappelle simplement que notre émission, eh bien, c'est de 17h à 18h30, les 2e et 4e mercredis de chaque mois, sur Radio Libertaire 89.4 en région parisienne. Et vous pouvez nous retrouver sur le net, le site Radio Libertaire en direct et en podcast. En mars, on lit et on lutte encore plus que les autres mois. Et avant de parler de nos lectures, Frédéric, est-ce que nous avons une annonce particulière à faire ?
Oui, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors, le ciné de la Commune, du groupe Commune de Paris, vous propose un documentaire de Catherine Fumet et François Guérouet. La première partie du documentaire, « Notre Terre mourra proprement », histoire des luttes contre les déchets nucléaires. Alors, ce sera le mercredi 19 avril 2023 à 20h à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris. Pour s'y rendre, c'est facile, c'est métro ligne 5 ou ligne 8. Alors, métro ligne 5 ou 9 d'ailleurs, c'est la station Oberkampf. Et sur la ligne 8, ce sera la station Fille du Calvaire. Voilà, je te repasse le micro, Francis.
Merci. Alors, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. On commence à avoir quelques courriers, des présentations de livres et notamment il y a un livre dont nous parlerons la prochaine fois et qui concerne la recherche d'une famille en Espagne après la rétirade et puis des enfants qui sont séparés de leurs parents et comment tout cela s'est organisé et comment la France a accueilli plus ou moins bien, faut quand même le dire, ces réfugiés républicains espagnols. Je rappelle simplement notre adresse postale, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Alors, au programme de cette émission, on commence tout de suite avec un livre pour alimenter le débat, un livre de Nicolas Framont, Parasite, c'est aux éditions Les Liens qui Libèrent, et c'est sorti très récemment. Alors, c'est Marie qui va nous en parler. C'est un livre au titre fort, ça, Les Parasites. Alors, qui sont ces parasites, Marie ?
Eh bien, je commencerai tout d'abord par la définition que l'on peut trouver dans le dictionnaire. Hein. Nom masculin, être qui vit aux dépens d'un autre sans le détruire, ou adjectif superflu, gênant. Mais pour Nicolas Framont, le parasite, c'est plutôt les classes bourgeoises qui se nourrissent de notre travail, de nos impôts, de notre vie politique, de nos besoins et de nos rêves. Donc ce livre, hein, écrit par Nicolas Framont, qui est sociologue et rédacteur en chef du magazine Frustration, est une analyse très militante, hein, qui se plonge dans l'univers de la finance, composé à la fois des super-profits issus de la grande bourgeoisie, hein, voire de l'aristocratie. Donc, soit les parasites, désignés volontairement comme tels par l'auteur, hein, et donc aussi, en plus d'être des aristocrates, ce sont des politiciens qui les avantagent. Donc, certains politiques actuels se feraient d'ailleurs un plaisir de dénoncer cet ouvrage comme un appel à la haine et à la révolte populaire, notamment en ces temps de tensions sociales où les groupes d'extrême gauche et les partis sont désignés comme les coupables idéaux, hein, qui attisent la colère du peuple et les encouragent à la violence prétendument exercée dans la rue et exclusivement par des anarchistes et des antifas. Donc c'est en réponse à cette société capitaliste mise en place par les politiques néolibérales, hein, pieds et poings liés avec les grandes fortunes bourgeoises, que Nicolas Framont apporte ce décryptage, hein, de cet ensemble parasitaire qui illusionne la société en justifiant leurs choix et leurs agissements comme des solutions nécessaires à l'intérêt général. Différents exemples de parasites économiques sont ainsi présentés, hein, dans le livre, comme par exemple la fameuse famille Leclerc, hein, antisyndicaliste au possible, propriétaire de l'enseigne de magasins du même nom, qui prétend hypocritement générer du profit pour créer de l'emploi tout en s'offusquant du taux record de l'inflation dans le pays, alors que lorsque nous regardons les choses d'un peu plus près, nous savons pertinemment que la majorité des emplois créés par l'enseigne Leclerc sont des postes précaires, hein, à pénibilité physique et mentale, hein, qui ont contribué à la désintégration progressive des commerces locaux, d'ailleurs, dans les différentes régions françaises. Donc il s'agit bien évidemment d'un exemple parmi tant d'autres, hein, la famille Leclerc, mais qui décrit bien le processus d'implantation durable des grandes familles bourgeoises au sein de l'économie française. Mais comme le précise bien l'auteur, sont-elles vraiment utiles et bénéfiques pour notre société ? Réponse non, car in fine, elles coûtent bien plus d'argent à l'État qu'elles n'en rapportent. D'ailleurs, selon le dernier rapport de l'Institut de recherche, économique et sociale, 157 milliards d'euros provenant de nos impôts sont dépensés chaque année en tant qu'aide publique aux entreprises. Donc Nicolas Framont décrit bien aussi tout cet univers politico-financier qui nous gouverne, grandes fortunes et politiciens, étant interdépendants l'un de l'autre, hein, ils agissent main dans la main à travers tout un réseautage qui permet à leur idéologie et à leurs intérêts de perdurer depuis des décennies en France, hein, même sous Mitterrand, c'était déjà bien le cas. Cet ouvrage décrit très bien la mentalité élitiste et déconnectée, non seulement des gouvernants français, mais aussi de nos députés, qui pour 80% d'entre eux sont des cadres et des professions intellectuelles supérieures. On peut dire que Rachel Keke, députée du Val-de-Marne et ancienne femme de chambre, fait figure d'exception dans l'hémicycle. Mais derrière cet élitisme ambiant en politique, on entend également des récits complètement déchantés de descendants d'aristocrates, hein, comme Rodolphe Sadé, par exemple, qui font mine de défendre la méritocratie en prétendant n'être partis de rien et ne devoir leur richesse que par leur pseudo-mérite et leur force de travail. Mais ce n'est qu'une histoire à dormir debout, puisque les classes dirigeantes sont actrices d'une idéologie qui creuse toujours un peu plus l'écart entre dominants et dominés, aristocrates et classes laborieuses. Donc serait-ce finalement utopique de penser que cette tendance pourrait un jour s'inverser ? L'auteur répond d'ailleurs à cette question dans la dernière partie de son ouvrage. Donc je vais vous faire lecture justement des 6 points clés qui lui permettent... premièrement, ne plus adhérer aux récits flatteurs sur la classe dominante. Donc il faut renverser cette vision des bourgeois qui réussissent toujours tout et qui sont formidables. Ensuite, rejeter toutes les mystifications de cette classe. Hein, il ne faut plus dire économie de marché, mais accumulation subventionnée. Hein, ne plus dire mondialisation, mais colonialisme financier. Ne plus dire riche mais bourgeois. Troisième point, se débarrasser des grilles de lecture du monde favorable aux bourgeois. Il n'y a pas de problème d'identité mais de propriété. En quatrième point, être fier de ce qu'on est et du milieu dans lequel on vient. Comme le dit d'ailleurs Corinne Maziro, arrêtez de vous faire bouffer la moelle épinière par ces codes bourgeois. Cinquième point, n'ayez pas la haine des bourgeois. Ils n'en valent pas la peine, méprisez-les, trouvez-les ridicules, ne vous sentez pas inférieur à eux. Ce n'est ni l'intelligence, ni le mérite, ni le courage qui vous sépare d'eux, mais la lutte des classes. Et dernier point, refusez le dialogue social entre inégaux. C'est le monologue du dominant assuré. Ne demandez rien à la classe parasite. Ne perdez pas votre temps à espérer lui faire entendre raison. Je fais référence, bien sûr, au discours d'Emmanuel Macron dans le journal du 13h. Utilisez la force plutôt que les mots. Voilà, donc ça, c'est le message que fait passer Nicolas Framont dans son livre. Hein. Et comme tout militant convaincu, il aspire à une société nouvelle, où il y aurait une réelle redistribution des richesses, où les super-profits n'influenceraient plus autant sur la vie politique, où la justice sociale s'appliquerait de façon à réduire drastiquement les inégalités. Et comme le précise bien aussi l'auteur à travers ce livre, en fait, la haine des riches ne s'apparente pas systématiquement à la haine de ceux qui réussissent financièrement et socialement, mais plutôt dans la haine des parasites qui jouent de leur influence politique et économique pour contribuer toujours davantage à l'exploitation de l'homme par l'homme, concrétisant justement ce modèle dominant et dominé de la plus abjecte des manières, et cela sans scrupules et en toute impunité.
Donc, voilà. Parasite.
Donc, Parasite, aux éditions Les Liens qui Libèrent, et donc il est paru le mois dernier, en février 2023.
D'accord. Frédéric, on va peut-être demander à Jacques Brel ce qu'il pense des bourgeois. C'est parti.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires, qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi souffre, moi. Et quand vers minuit passaient les notaires, qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre, de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient... Ah.
Alors, dans Au fil des pages, nous aimons aussi le contact avec la nature, les territoires et les terroirs. Alors, là, je vais vous présenter un livre, qui est un très beau livre, de Marie-Hélène Lafon. J'avais déjà parlé la dernière fois de plusieurs de ses livres, et notamment d'un livre qui s'appelle Les Sources. Et Marie-Hélène Lafon, vous savez, c'est cette dame qui parle des paysages du Cantal et qui souligne l'harmonie entre ces paysages et puis les paysages qu'elle appelle d'ailleurs le corps des pays, comme celui d'en haut, par exemple. Vous vous rappelez peut-être le titre d'un de ses livres. L'éditeur lui-même, Bleu Autour, est de l'Allier, pas très loin donc du Cantal, Saint-Pourçain-sur-Sioule, le terroir de l'Auvergne, en fait, tout est là. Et puis, il y a un photographe, et oui, c'est l'intérêt de ce livre, c'est d'avoir des textes et d'avoir de très belles photos qui donnent à réfléchir. Et le photographe, écrivain voyageur Luc Baptiste, souligne dans son avant-propos que les paysages sont des vestiges, ils sont ceux qui restent. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, et je fais encore pas mal de randonnées, et lorsque je suis sur certains de ces vieux terroirs, je vois les traces de ceux qui ont réalisé ces chemins, qui ont construit ces mâts, qui ont construit ces chalets, etc. Et on voit bien, c'est ceux qui restent. Et Marie-Hélène Lafon reste, elle, sur son partage entre Paris, la ville, là où elle a fait sa carrière, et son pays, la vallée de la Santoire. Elle en est partie. On s'est arraché, dit-elle. On aurait pu ne pas le faire. Comme pour mieux comprendre cette hésitation, après ces mots, une photo des toits d'une ville, sans doute Paris, et la photo suivante, un chemin comme un cours d'eau. On croirait lire de l'Élysée reclus, vous savez, l'histoire d'un ruisseau, vers une ferme, une maison épicentre qu'elle n'oublie pas. Ça, c'est un autre, c'est le livre Les Sources. Et des plateaux, ceux du Cantal, que, effectivement, j'ai parcouru. Et voici la fin de l'hiver. La neige tient dans les creux. Le bleu du ciel se reflète plus intensément dans les mares et les lacs. Les vaches, écoutez-les dans les pages. Eh oui, écoutez-les dans les pages. Elles s'affirment sur cette terre. Et les chemins dans les sous-bois invitent à y imprimer nos pas. La Santoire, la rivière, serpente dans sa vallée. Mais ce n'est pas qu'un livre sur le paysage cantalien, il faut visiter le monde et les auteurs intègrent des photos du désert de Jordanie, des villes américaines, d'Andalousie, qui tranchent avec le vert éclatant des prés au printemps. Oui, les images, les photos sont fortes, comme le texte. Elles happent nos désirs. J'en relèverai une qui semble comme un tableau de Monet, le prince des Nymphéas. Et plus loin, les temps anciens rejoignent les temps modernes. Vous verrez des jeux d'eau, de brume, de lumière, de terre, d'esprit de ces femmes et de ces hommes qui ont formé le corps des pays. Un très beau livre, Luc Baptiste et Marie-Hélène Lafon, Le corps des pays, aux éditions Bleu Autour en 2023. Avant de passer à un autre livre, Marie-Claire Calmus, qui a publié, je le rappelle, un livre Entre Vernon et Mantes aux éditions, Marie-Claire ?
Aux éditions Edith Inter.
Et ce n'est pas ton premier livre que tu publies chez Edith Inter ?
Oh non, j'en ai publié beaucoup, oui, oui. Alors, des essais, de la poésie, des nouvelles. Oui.
Alors, tu vas prochainement, et c'est pour ça qu'on a souhaité te réinviter, puisque tu es déjà passé le 8 mars.
Oui.
Tu vas animer une soirée à Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, et c'est consacré à la présentation de ton livre avec des extraits, des poésies. Est-ce que tu pourrais, là, nous en présenter une ?
Oui, alors, à propos d'Entre Vernon et Mantes, j'avais, je crois, à l'émission précédente, parlé déjà de ce que la campagne avait suscité en moi. Non seulement l'écriture poétique, parce qu'il y a plusieurs livres déjà de poésie sur cette période qui sont sortis, mais également la peinture. Alors la peinture, c'est vraiment la grande aventure, puisque je n'ai jamais été considérée comme très douée en dessin. Donc ça m'est tombé dessus, je dirais. Et je pense que là, il y a eu l'influence de la nature, de la beauté de cette région, hein, entre Vernon et Mantes. C'est devenu donc une activité qui, après tout, est assez complémentaire de la poésie. D'ailleurs, dans ces derniers recueils, même sur le précédent qui n'était pas des poèmes de cette époque-là, qui étaient des poèmes beaucoup plus récents, j'introduis systématiquement des dessins, des croquis, oui. Parfois des dessins en couleur, comme c'est le cas pour le précédent. C'est devenu une partie de ma vie extrêmement importante. Enfin,
alors, une poésie.
Une poésie qui montre l'intégration de cette activité dans la contemplative.
Tu nous en présentes une ?
Oui. Je me lève à 9h et m'enracine à 10. À 11, je suis de bronze et je suis creuse à midi. À 13, je suis bien aise de 10 lettres d'amis. À 14, je me force à prendre le maquis. À 15, je m'épingle au revers du pays. La forteresse peinte, vos mots d'amour aussi. 17, force nouvelle. De 18 à la nuit, la belle nourriture. En rue, la flânerie avec mon bel ami me mène droit au rêve, dans l'étroit de mon lit.
Merci. Alors, vous avez compris, chers amis auditrices et auditeurs, vous allez le vendredi 24 mars, à quelle heure déjà ?
Alors, ce sera au départ 19h30. On attendra comme toujours les retardataires.
Et vous pourrez écouter d'autres poésies, mais nous allons retrouver Marie-Claire dans un instant. Moi, je voudrais vous parler d'un autre livre. Alors, vous allez dire, si ce sont des livres pour ouvrir le débat, parce que là, c'est un livre qui porte sur un village qui disparaît. Et un village qui disparaît, c'est toujours une émotion, surtout lorsque vous y avez passé les vacances de votre enfance, entouré de vos grands-parents. Et puis un jour, le cocon n'existe plus, il est englouti. Et nombreux sont les habitants qui ont vu leur village happé par les eaux d'un barrage, un élargissement des voies routières. Et Guy Darol, l'auteur du livre « Village fantôme », est reconnu pour plusieurs de ses ouvrages, notamment concernant Joseph Delteil ou Frank Zappa, eh bien, Guy Darol nous livre ses émotions et son souvenir dans un petit livre charmant et émouvant qui s'appelle, justement, « Village fantôme ». Fantôme parce qu'il n'existe plus ou parce que l'auteur fait revenir cette enfance et les personnages décédés, un peu des deux à mon avis. Et vous apprécierez, comme moi, le dessin qui orne la couverture. Et pour en mesurer le sens, il faut lire le livre. Comme d'habitude, je vous invite à le lire. Oui, le passé peut être détruit, et même le plus solide en apparence. Qui peut s'en prendre à un village au cœur de la Bretagne ? Il n'y a pas de pression foncière au cœur de la Bretagne. Il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a pas d'implantation industrielle ? Eh bien si. L'exploitation d'une carrière de granit nécessite l'extension d'un périmètre qui va mettre en péril plusieurs villages autour d'un bourg qui s'appelle Ménéac, le hameau de la ville géant avec un H, doit disparaître, l'économie l'emporte. La ferme de ses grands-parents devient un amas de pierres. C'est terrible. Il arrive, quelques objets au sol, le sarrau de sa grand-mère qui traîne accroché à un clou, quelques pauvres vestiges. Difficile pour Guy Darol de se retrouver. on ne frappait pas à cette porte, on tournait la poignée et on entrait comme on revient chez soi. Oui, c'était pas fermé à clé. Et on pouvait, c'était toujours un peu entrouvert. Les grands-parents, je poursuis la citation, les grands-parents n'étaient jamais surpris. Ils ne posaient aucune question. J'étais là. C'était donc que le voyage s'était bien passé. Guy nous fait vivre la soirée avec eux, un entre-soi villageois. Tout le monde se connaissait et se tenait les coudes. Oh, c'est pas non plus le monde idyllique, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. On y parle le galop, une sorte de patois, je vais peut-être me faire incendier, de patois mi-breton, mi-français, en tout cas une langue de la terre qui revient naturellement dans les mots, dans les expressions, quand on retrouve ses racines. Et nous vivrons les moments collectifs, celui du cochon, celui de la batteuse. Et ce livre s'adresse à toutes les femmes et à tous les hommes attachés à une terre. Et j'insiste bien, c'est récent, c'est pas un livre qui a été écrit dans les années 50. Et Marie-Hélène Lafont, dont j'ai parlé précédemment, nous parle de son Cantal. Guy Doral fait de même avec sa Bretagne. Des gestes quotidiens, avec des yeux d'enfant, des mots d'enfant. Parce que nous sommes en Bretagne, nous ne coupons pas aux légendes de ce pays. Alors il y a un étang, une table ronde, serait celle des chevaliers, allez savoir. Il faut affronter la réalité un jour. Les vieux meurent, remplacés par des gens de la ville, qui banalisent, aseptisent les maisons survivantes. La carrière s'étend, une reconstitution végétale est promise. Oui, vous savez, comme d'habitude, comme du côté de Mantes où on a réhabilité des carrières. Le rouleau compresseur est en marche. Il reste les souvenirs, il reste les fantômes. Guy Darol, Village fantôme, aux éditions Maurice Nadeau en 2023. Un petit livre qui est vraiment ce que j'appelle un petit bijou. C'est un très beau moment à lire. Alors, nous arrivons à la première demi-heure de notre émission étant passée. Nous arrivons à une rencontre avec un doctorant en histoire du droit et des institutions à Paris 2 qui s'est intéressé à la Commune de Paris. Peut-être, Hugo, avant de parler de la Commune de Paris, nous allons passer à un grand classique interprété par Mouloudji. Quand viendra-t-elle, Frédéric?
J'attends une belle enfant. J'appelle, j'en parle aux passants. Je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. J'appelle, j'en parle aux passants. Que suis-je sans elle, un agonisant? Je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps? Que suis-je sans elle, un agonisant? Je vais sans semelle, sans rien sous la dent. Je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps? Je vais sans semelle, sans rien sous la dent. Transi quand il gèle, sans gîte souvent. Je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps? Transi quand il gèle, sans gîte souvent. J'ai dans la cervelle des mots et du vent.
Quand je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. J'ai dans la cervelle des mots et du vent. Un bétail on m'attelle, esclave on me vend. Quand je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Bétail on m'attelle, esclave on me vend. La guerre est cruelle, l'usurier pressant. Quand je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. La guerre est cruelle, l'usurier pressant. L'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang. Quand je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. L'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang. Ma misère est telle que j'en suis méchant. Je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Ma misère est telle que j'en suis méchant. Oh, viens donc la belle, guérir ton amant. Oh, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Oh, je l'attends. Attendrai-je encore longtemps.
Alors Hugo Roussel-Nérini, bonjour. En écoutant la chanson de Mouloudji, on constatait que Guy Darol avait travaillé, avait corrigé un de vos livres.
Absolument, c'est lui qui a fait la correction de l'ouvrage « Nous la Commune » que nous avons publié il y a 2 ans pour le 150e de la Commune de Paris avec l'artiste Dugudus et qui traite de 50 figures de la Commune de Paris.
D'accord. Et alors, ce livre, on peut le retrouver encore aujourd'hui ?
Absolument. Alors la première édition, c'était une auto-édition, puisqu'on a fait ça un peu dans la précipitation du 150e. Et un éditeur breton a trouvé l'ouvrage intéressant, l'approche originale, et il l'a réédité. Il s'agit de Locus Solus, et donc il est disponible. Il est aussi disponible dans l'atelier de Dugudus au 43 rue de la Mare, donc dans le 20e arrondissement de Paris.
43 rue de la Mare. Donc, alors nous rappellerons de toute façon d'interview. Là, nous rappellerons les endroits où on peut voir cela et où on peut le trouver partout, ce livre.
Oui, alors je ne saurais pas vous donner la liste des différentes librairies.
Mais... On peut le trouver chez Publico, évidemment,
ça, c'est
145
sûr.
Alors, donc, vous êtes beaucoup intervenu, nous sommes beaucoup intervenus à des titres divers et variés lors des commémorations du 150e anniversaire, et on se disait, tiens, pour le 152e, c'est vrai qu'on parle moins de la Commune de Paris. C'est vrai, il y a eu samedi dernier une manifestation place Léon Blum pour commémorer le départ de la Commune le 18 mars. Mais bon, et là, tout de même, j'ai reçu, il y a quelque temps, un livre qui regroupe des interventions de juristes sur un thème peu couru, celui de la Commune de Paris au prisme du droit. Alors, c'est un ouvrage qui est paru aux éditions Marais Martin en 2022. Alors, pourquoi un colloque sur ce thème et pourquoi ce livre ?
Déjà, c'était dans le cadre du 150e de la Commune de Paris que on a voulu aussi marquer le coup, que les juristes et les historiens du droit ont voulu publier cet ouvrage. Et c'est vrai que finalement, la Commune est toujours analysée au prisme politique, au prisme, par exemple, de la répression ou de la question sociale ou du féminisme, mais rarement au prisme du droit. Et donc, ça a été un peu le pari de ce colloque de travailler un petit peu sur ces questions-là.
Alors, est-ce que les idées de la Commune sur la justice sont encore d'actualité ?
Ah, bah, il y a des questions qui sont toujours d'actualité, notamment je parlerai du jury et du jury populaire qui est menacé. Et donc ces questions-là sont toujours d'actualité. Et puis il y a aussi des idées. Alors le mot n'existe pas à l'époque, mais tendance féministe à l'époque et qui n'est pas terminée. Donc je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à trouver dans l'histoire de la Commune de Paris sur les questions du droit, tout simplement. Et puis la justice sociale, évidemment.
Alors, j'aime bien lorsque on a des invités sur le thème de la Commune, de leur demander une définition de la Commune. Pour vous, qu'est-ce que la Commune de Paris? Alors, pas forcément la définition juridico, cela bien dit, sûr. Ça peut être intéressant.
Pour moi, la Commune de Paris, eh bien, c'est déjà tout simplement la quatrième révolution française. Hein. Il faut l'inscrire dans le cycle des révolutions, hein, 1789 et 92-93, 1830, 1848 et 1871. Et pour moi, c'est la lutte pour la réalisation de ce que les communards appelaient la vraie République, c'est-à-dire la République démocratique, sociale, laïque et universelle.
Tout à fait. Alors, ces idées, comment se sont-elles traduites en actes juridiques? C'est possible de les traduire en actes juridiques au moment de la Commune?
Le droit, c'est toujours la traduction des idées politiques, c'est la mise en place des idées politiques. Il y a les grands principes, il y a les grandes idées, et puis ensuite, il y a toute la difficulté d'une application de ces principes et d'une traduction, ensuite avec des procédures, avec un personnel aussi pour mettre en œuvre tout cela. Si on parle d'une justice populaire, par exemple, ou si l'on parle d'une justice sociale, il faut aussi ensuite qu'elle puisse être traduite concrètement. Et donc, le droit est un outil parmi tant d'autres, bien sûr, qui permettent de faire aboutir un processus révolutionnaire.
Mmh, tout à fait. Alors, après le 18 mars, après les élections permettant la désignation des membres de la Commune, un homme, Eugène Proto, est désigné comme délégué à la justice. Alors, comment sera-t-il désigné et qui est Eugène Proto?
Alors Eugène Proto, c'est un homme qui est né en 1839, dans l'Yonne, et qui est issu d'une famille de vignerons, mais qui rapidement va s'intéresser au droit et qui va faire des études de droit et qui va devenir avocat. Ça va être un des rares avocats de la Commune de Paris. Et dans les années 1860, Eugène Proto se prend de passion plutôt pour la tendance blanquiste. Hein, il y avait ce personnage, cette figure très importante de l'enfermé, Louis-Auguste Blanqui, et qui, donc lui, était un vieux de la vieille, un vieux révolutionnaire. On l'appelait déjà le vieux, d'ailleurs. Il avait participé à la révolution de 1830, à celle de 1848. L'enfermé, parce qu'à chaque fois, il tente des coups. Je pense notamment à celui de 1839, où le coup était tellement bien organisé avec Barbès que lorsqu'il rentre dans l'hôtel de ville, il arrive avec son équipe, ils occupent les lieux et c'est un dimanche et personne ne se rend compte qu'il a fait une révolution entre guillemets et donc en quelques heures il est arrêté et jeté en prison.
Mais je crois qu'il a passé 30 ans de sa vie en prison.
Plus que ça, oui, c'est 36 ans de sa vie en prison, effectivement. À chaque fois en fait qu'il y a eu l'occasion se présente, Blanqui tente évidemment de prendre le pouvoir.
Mais alors, au moment de la Commune, d'ailleurs, il ne sera pas là, il sera enfermé,
absolument,
une fois de plus, dans le sud de la France.
Il est arrêté dans la nuit du 17 au 18 mars, puisque Thiers avait bien compris que s'il y avait une figure qu'il fallait bien arrêter, c'était sienne.
Lui.
Et puis, effectivement, ses partisans, dont Eugène Proto. Alors, dans les années 1860, il y a un peu cette nouvelle génération de jeunes blanquistes qui vit un peu dans le quartier latin, qui va dans les brasseries comme la brasserie Glaser et qui publie tout un tas de journaux, La Rive Gauche, notamment Candide, dans les journaux dans lesquels écrit Proto. Et c'est une génération qui est plutôt fascinée par la figure d'Hébert et du néo-hébertisme. On a une tendance qui va être la tendance majoritaire sous la Commune, qui est celle des néo-jacobins, plutôt favorable, disons, à la figure de Robespierre, à la figure de Rousseau. Et eux sont plus iconoclastes, trouvent que Robespierre est un peu trop spiritualiste et peut-être un peu trop modéré, préfèrent cette figure de Hébert. C'est Gustave Tridon, un blanquiste aussi, qui écrit Les Hébertistes. Et donc il y a un peu cette volonté, je dirais qu'en 1868, l'hébertisme est ce que le maoïsme sera en 1968. Quoi. C'est un discours, une radicalité. Il préfère aussi Voltaire, d'où le titre de Candide, à Rousseau, puisqu'il y a cette tendance un peu athéiste. Mmh. On va retrouver d'ailleurs des gens pas forcément blanquistes dans cette tendance, comme Jules Vallès, qu'on évoquait tout à l'heure, et qui préfèrent voilà, ce discours-là. Mais Proto va se faire connaître avant la Commune par deux faits. Déjà, en interne, il se fait connaître en 1866, puisqu'il part à un congrès de l'Association internationale des travailleurs. Blanqui lui avait interdit de le faire, finalement, et il part avec d'autres pour brocarder les Proudhoniens, qu'il considère comme trop modéré, et donc il va faire du bruit. Il revient ensuite à Paris et il va connaître un procès en interne au Café de la Renaissance. Et le procès en fait se solde tout simplement par une rafle de police, donc tout le monde est arrêté. Lui, il arrive à s'échapper.
Les jugés et les jurys.
Voilà, c'est ça. Le juge et l'accusé ils sont tous arrêtés. Lui arrive un peu à s'échapper, ce qui le rend d'ailleurs suspect aux yeux de certains, mais en fait très rapidement il est aussi arrêté. Donc voilà, il est connu dans les milieux blanquistes, connu des services de police, mais là où il va particulièrement se faire connaître, c'est à la fin de l'Empire, avec l'affaire Mégy. Mégy, c'est un révolutionnaire qui participe à une manifestation interdite. Il est arrêté, et au moment où il est arrêté, il tue un policier. Et Proto, qui est donc un avocat, va vouloir assurer sa défense, mais cette défense, c'est en fait une arrestation, et lui aussi, une arrestation spectaculaire. Il tente de s'évader et réussit à s'échapper. Évidemment, ensuite, il fait partie de ces blanquistes qui participent à toutes les tentatives de prise de pouvoir, le 30 octobre 1870, le 22 janvier 1871, et bien évidemment, le 18 mars, il fait partie des figures de la Commune. Et très rapidement, il se présente donc aux élections et il est soutenu dans le 11e arrondissement par le Comité Central Électoral Républicain Démocrate Socialiste du 11e arrondissement, dont l'une des affiches affirme « La justice devant être accessible à tous sera gratuite. Le principe du jury sera appliqué à toutes les juridictions. La vie humaine devant être inviolable. » Nul ne doit pouvoir y être attenté hors le cas de légitime défense. Le système pénitentiaire doit avoir pour but l'amélioration du coupable. Donc c'est sur ce programme qu'il se fait élire. Et rapidement, effectivement, lorsque le Conseil de la Commune décide de créer des commissions, donc non pas des ministères, puisque c'est un exécutif collégial, et ce sont des commissions qui sont fondées sur la collégialité, lui intègre celle de la justice, qu'il va occuper ce poste, et d'une certaine manière, certains se moqueront de lui en disant « ça y est, il a initié son ministère de la justice, voilà, c'est un garde des Sceaux », parce qu'il va effectivement beaucoup s'investir dans ces questions.
C'est intéressant de voir que plusieurs blanquistes sont sur des postes en lien avec le droit. Je pense à Rigaud, qui était à la préfecture de police, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est lié à leur sensibilité politique ?
Je pense, oui, parce que la doctrine blanquiste, enfin, c'était pas une doctrine, d'ailleurs,
le blanquisme. Oui, parce que qu'est-ce que c'est que le blanquisme aujourd'hui? Ça m'amuse beaucoup, c'est de voir le boulevard Blanqui, qui est un immense boulevard à Paris, dans le 13e, mais demander aux gens qui sont sur le boulevard et qui s'y promènent, qui est Auguste Blanqui, personne ne sait.
Oui, bah, ça vaut pour Raspail, ça vaut pour Barbès, ça vaut pour Ledru Rollin, hélas.
Alors, qu'est-ce qui, en deux mots, caractériserait les blanquistes et leur rôle pendant la Commune?
Alors, je dirais qu'il y a trois axes dans le blanquisme. Déjà, l'athéisme, on l'a évoqué. Il y a aussi un communisme qui s'inspire non pas du matérialisme historique de Marx, mais plutôt d'un communisme qui s'inspire de Babeuf, puisque Blanqui est un élève de Buonarroti, qui est un ancien babouviste, qui d'ailleurs a transmis toute cette culture à toute cette jeune génération. La révolution, le patriotisme révolutionnaire, qui n'est pas le patriotisme réactionnaire, qui est un patriotisme universaliste et qui s'inscrit beaucoup dans la nostalgie justement de la révolution de 1792, notamment donc un républicanisme patriote. Mais c'est pas vraiment une doctrine. Mais en tout cas, la logique blanquiste, c'est celle d'un petit groupe, c'est celle d'une petite minorité agissante qui va prendre le pouvoir, donc qui s'appuie sur un bon sens plébéien, mais qui qui considèrent, en tout cas, que ce qui doit diriger la révolution, c'est ce petit groupe. Et effectivement, on retrouve chez les blanquistes quelqu'un comme Raoul Rigaud, quelqu'un comme Théophile Ferré, qui était l'amant platonique de Louise Michel, qui elle aussi est une blanquiste à l'époque, hein, qui évoluera ensuite vers la pensée plutôt libertaire, mais qui à ce moment-là est très clairement blanquiste. Et donc, ils ont effectivement une appétence pour le régalien, si j'ose dire, pour la question militaire, la sûreté générale. Rigaud et Ferré vont l'occuper et vont d'ailleurs très rapidement rentrer en conflit avec Proto parce qu'ils n'ont pas du tout la même approche de la justice.
Et alors, Proto, lui, par exemple, est opposé à la peine de mort. Et pourtant, il y a ce décret des otages et quelques fusillades, notamment rue d'Axau. Mm-hmm. Alors, on ne va pas reprendre le débat mais sur les otages, mais je voudrais la position de Proto par rapport à ce décret.
Alors, Proto, c'est celui qui va rédiger le décret sur les otages. C'est lui qui va se charger de cela, mais il ne s'en charge pas parce qu'il a particulièrement une appétence pour la violence, mais au contraire parce qu'il veut poser des procédures, qu'il veut poser des règles. Que ce qui l'inquiète, lui, c'est justement le discours de certains, parmi ses amis blanquistes entre autres, qui veulent ouvrir les prisons et faire une sorte de justice populaire un peu sommaire à la façon des massacres de septembre, qui est quand même pas le moment le plus joyeux de la Révolution française. Et donc, il écrit ce décret et il l'encadre. Je cite, considérant que si les nécessités du salut public commandent l'institution de juridiction spéciale, elles permettent aux partisans du droit d'affirmer les principes d'intérêt social et d'équité qui sont supérieurs à tous les événements. Le jugement par les pairs, l'élection des magistrats, la liberté de la défense. Et donc, il s'inspire, en fait, de la pensée révolutionnaire de 1791 pour mettre en place ce jury d'accusation, ce jury d'exception. Et voilà qu'il pose quelques conditions. Par exemple, si les 12 jurés qui composent les jurys sont tirés au sort dans la liste des 80 élus de la garde nationale, donc bon, pas tout à fait des pairs, il faut bien l'admettre, l'accusé peut récuser jusqu'à 8 de ses jurés. Et ce droit de récusation est d'ailleurs seulement réservé à l'accusé et la partie civile est retirée au ministère public. L'accusé peut aussi librement choisir son défenseur. Donc on supprime en fait le monopole du ministère d'avocat, ce qu'on ne pardonnera jamais à Proto, mais qui était déjà une idée qui était dans le décret du 2 septembre 1790. Il peut faire citer tout témoin à défense et il peut aussi bénéficier de ce qui relève de la gratuité de la justice, puisque c'est ce qui fait partie du programme de Proto, et Proto met en œuvre aussi une certaine gratuité de la justice, notamment de nombreux actes, des actes notariés, la question du mariage, puisque la sensibilité de Proto est aussi une sensibilité, entre guillemets, féministe. Il y a aussi ce débat-là qui se pose, et Proto, très rapidement, va faire en sorte que, par exemple, les femmes puissent avoir des pensions alimentaires dès qu'il y a séparation de corps. On revient sur ce discours-là. C'est un discours qui divise beaucoup les communards, mais toute tendance confondue, parce que évidemment il y a les figures féminines qu'on connaît, Louise Michel, Anna Jacquelart, André Léo, donc évidemment elles défendent les intérêts des femmes, mais il y a aussi des hommes, il y a des néo-jacobins comme Grousset, il y a des collectivistes non autoritaires comme Varlin, il y a des blanquistes comme Proto qui considèrent, contrairement aux proudhoniens qui voient dans la femme soit une ménagère, soit une courtisane, pour reprendre les termes de Pierre-Joseph Proudhon, eux ont une vision d'égalité entre l'homme et la femme. Et ça, c'est un discours que Proto porte très tôt déjà dans les années 1860. Donc ça aussi, ça fait partie de son action. Mais pour en revenir au décret sur les otages, c'est lui qui met en place les procédures. Et les massacres de la rue d'Axau, qui sont pas non plus le meilleur moment de la Commune de Paris, les otages sont massacrés sur pression de la foule pendant la Semaine sanglante, et avec un peu la bénédiction de la Sûreté Générale, donc de Rigaud, qui était d'abord délégué à la Sûreté Générale, qui devient procureur, donc qui se prend pour Hébert, et de Ferré. Et donc là, il y a conflit, et il va y avoir conflit. Il y a conflit de toute façon entre les justices, entre la justice de Proto, entre celle de la Sûreté Générale, et aussi la justice militaire, puisqu'il y a aussi une cour martiale qui est mise mise en place quand Rossel reprend la tête de la direction de la guerre, et il met en place un peu à contre-cœur une cour martiale. Il dira d'ailleurs dans ses mémoires, avant d'être fusillé par les Versaillais, je devais présider une cour martiale qui ne devait rendre que des actes de mort, en fait, que des condamnations à mort. Et effectivement, ce conflit entre la sûreté, entre la justice militaire et entre la justice pénale et civile, c'est une antienne des révolutions, si j'ose dire.
Mmh, oui, tout à fait. Alors, il refuse, vous le citez, il refuse de violer le droit des gens, oui. Tout comme de venger le massacre par le massacre.
Mmh.
Donc, d'un autre côté, vous avez raison de souligner et la situation de la rue d'Axo, la fusillade de la rue d'Axo. On est dans la semaine sanglante, il y a des milliers de Parisiens qui sont tués à tous les coins de rue, de Parisiens, de Parisiennes, d'enfants, de vieillards, etc. On en aura 15 000 ou 17 000, 32 000, c'est peut-être un peu beaucoup, mais enfin, c'est énorme le nombre de gens. Il y a eu combien de morts rue d'Axo ?
Alors, rue d'Axo, enfin, je dirais qu'il y a eu une soixantaine d'otages qui ont été fusillés. Bon. Il y a ceux de la rue d'Axo. Il y a deux figures aussi assez symboliques. Il y a d'abord Chaudet, qui est d'ailleurs a été un exécuteur testamentaire de Proudhon. Mais Chaudet avait participé à la fusillade du 22 janvier contre les futurs communards. Donc voilà, on voulait un peu sa peau, et c'est Rigaud qui s'en charge. Et puis il y a Bonjean aussi, qui était qui est donc une figure du Second Empire, qui était une figure, un juge du Second Empire, le président de la Cour de cassation. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse phrase, lorsque Bonjean se retrouve devant Rigaud, il lui dit « Vous ne respectez pas la légalité », et Rigaud de lui répondre « Je ne fais pas de la légalité, je fais la révolution ». Donc c'est ce qui entre en contradiction avec Proto, parce que Proto, lui, dit « Non, mais une révolution doit quand même protéger les libertés individuelles ».
Oui, tout à fait.
Et même si nous sommes dans un moment d'exception, nous mettons en place une justice d'exception, nous l'assumons. C'est comme sous la Révolution française avec le tribunal révolutionnaire et cette volonté par les montagnards d'encadrer en fait une violence révolutionnaire qui sinon déborderait. Ils essayent de le faire et là c'est un peu la même chose. Et d'une certaine manière, on retrouve les conflits entre Robespierre, le comité de salut public, et les hébertistes, notamment à l'époque de la Révolution française.
Oui, oui. Et c'est enfin, moi, je trouve que les gens de la Commune et les gens de la Révolution française de 89 se tendent la main par-dessus le 19e siècle. Quoi.
Absolument,
c'est,
oui.
C'est assez étonnant. On s'appelle d'ailleurs citoyen, on s'appelle pas camarade. On chante le chant du départ et la Marseillaise, puisque l'Internationale sera écrite au mois de juin, suivant la légende probablement attestée. Donc,
sur
voilà,
la musique de la Marseillaise, d'ailleurs.
Sur
au
la
départ.
Musique au oui, départ, oui, oui tout
il y
à
avait
fait.
Une Marseillaise de la Commune aussi.
Oui,
vous avez changé les paroles.
Ouais. Alors, vous qualifiez l'action de Proto de libérale, jacobine et socialiste.
Mm-hmm.
Alors, comment expliquer cette approche libérale, jacobine et socialiste ?
Alors, libéral, je parle évidemment du libéralisme au sens politique, hein, le libéralisme de la Révolution française, c'est-à-dire non pas le néolibéralisme de Milton Friedman ou même le libéralisme d'Adam Smith, mais bien le libéralisme politique, c'est-à-dire celui qui tend à respecter les libertés individuelles.
Les libertés publiques.
Et les libertés publiques, absolument. Donc, de ce point de vue-là, il est attaché à cette doctrine, on va dire. Il est jacobin puisqu'il veut l'élection des juges et qu'il veut le jury, un jury populaire, et qu'il est, je pense, attaché à cette idée. Je pense qu'il aurait été plutôt du côté de la majorité de la Commune, mais c'est pas un exagéré. C'est-à-dire que il accepte le comité de salut public, mais comme une nécessité contingente. Mais sinon, lui, il reprend cette idée de l'élection des juges, cette idée du jury populaire. Donc il est une fibre jacobine et socialiste, évidemment, puisqu'il a une fibre sociale, puisque selon lui, la justice, c'est aussi la justice sociale.
Et il va s'en sortir ou il va être massacré
Alors lui, il fait partie des derniers à se battre sur les barricades. Il est sur parmi les dernières barricades et puis il y a une explosion qui lui arrache à moitié la joue. Il se retrouve à moitié hagard. Une femme qui va le sauver, qui va le cacher. Ensuite, il va réussir à s'échapper. Je crois que c'est un médecin qui l'a fait passer pour son assistant. Donc, il réussit à s'échapper pendant toute la répression et la terreur tricolore. Et il revient au moment de l'amnistie. Et ensuite, il va essayer de...
Le moment de l'amnistie.
C'est-à-dire en 1880-81,
voilà.
Quand les communards reviennent...
Peuvent revenir en France.
Peuvent revenir en France. Mmh. Il revient, il va d'ailleurs se lancer, tenter la politique. Il va essayer de se présenter à Paris, ça sera un échec. Il se présente ensuite à Marseille. Il est assez hostile à la tendance, à l'évolution vers du socialisme vers le marxisme. Il est assez hostile, plutôt, je pense, par germanophobie et par souvenir de la guerre franco-prussienne. Et il se va essayer de se présenter contre Jules Guesde, ça ne fonctionnera pas. Et finalement, en définitive, la fin de sa vie, ça va être un homme de bibliothèque qui va s'intéresser notamment au monde arabo-musulman, qui va apprendre les langues orientales et particulièrement l'arabe. Et apparemment, on le croisera dans des bibliothèques en train d'apprendre des langues étrangères et il s'écartera un peu de la politique. Mais l'insurgé, la chanson L'insurgé, son vrai nom c'est l'homme, a été dédiée à Proto. C'était une chanson qui lui était destinée.
Voilà. Donc, alors, ce livre, c'est les actes d'un colloque, donc il va vivre sa vie. Vous avez d'autres projets de livres sur la Commune ou c'est sur d'autres thématiques maintenant que vous allez intervenir ?
Alors moi j'aimerais terminer ma thèse avant toute chose puisque...
Oui. Qui porte sur, si c'est pas indiscret ?
Alors moi je travaille sur la généalogie des droits sociaux et économiques fondamentaux, les droits créances comme on dit chez les juristes, le droit à la santé, le droit au logement, le droit au loisir, le droit à l'éducation, au travail et à la paresse. Et on pourrait, la liste est longue, mais voilà ce sur quoi je travaille. Après, évidemment, j'ai plein de petites marottes. Hein. J'ai bientôt publié un article sur les premiers antifascistes italiens d'avant la prise de pouvoir de Mussolini.
C'est-à-dire qui ?
C'est-à-dire ceux qu'on appelait les Arditi del Popolo, qui étaient donc des premiers groupes d'action antifasciste dans lesquels on retrouvait de toutes tendances confondues, syndicalistes révolutionnaires, socialistes, communistes, même catholiques populaires, qui ont essayé de faire une action antifasciste qui a échoué parce que, pour plein de raisons d'ailleurs, y compris par le sectarisme, je pense, des partis à l'époque qui voulaient tous avoir leur propre association, et il y a eu cette tentative-là. Et ensuite, moi, plein de sujets m'intéressent. Hein, je trouve que on parle trop peu de la révolution de 1848, et après, il y a plein de figures de révolutionnaires à travers le monde sur lesquels j'aimerais écrire et j'en reviendrai peut-être à l'occasion vous en parler.
Voilà. Alors, pour le prochain bouquin sur la thèse, ça sera peut-être un peu difficile, quoique moi ça m'intéresse, mais et les droits à la santé, etc., ça, je trouve que c'est intéressant. Mais on rappelle l'exposition là en extérieur, alors ça se déroule où, etc.
Alors absolument, l'exposition Nous la Commune qu'on avait réalisée avec l'artiste du Gudus pour le 150e, elle avait été sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris, elle avait ensuite été sur la grille de Gare de l'Est, des Buttes Chaumont, ensuite à Bastille, elle avait fait un petit tour à Narbonne, puis elle avait fait un tour aussi à la Fête de l'Humanité, puis elle était là...
Narbonne qui fut... Une des communes
hein,
de
avec
province.
Marseille, avec Lyon,
Marseille,
avec Alger aussi. Enfin, il y a eu plusieurs communes. Il n'y a pas que la Commune de Paris. D'ailleurs, dans l'exposition, il n'y a pas que des figures de la Commune de Paris. On retrouvera justement...
Crémieux, peut-être.
Il y aura effectivement Crémieux. On retrouvera Dijon.
De Marseille, Crémieux de Marseille.
Crémieux de Marseille, absolument. Il y aura Marie Bonnevial pour la Commune de Lyon. Et donc, ces 50 personnages de la Commune qui sont imprimés en taille 1, dessinés par Dugudus, sont actuellement, depuis le 18 mars, sur les grilles du parc de Belleville, au Belvédère et dans la rue des Couronnes. Et donc, c'était absolument gratuit et accessible pour tout le monde. Et elle reste jusqu'au 25 mai.
Oh, très bien. Donc, une promenade très agréable du côté de Belleville. Et pour retrouver la Commune. On va retrouver la Commune avec l'ami Brassens. Chanson, les paroles sont d'Aristide Bruand. Frédéric.
La chanson de la Commune aussi était chouette. Le fracas du canon s'entend à l'horizon. Le fracas du canon s'entend à l'horizon. C'est la Commune qu'on vient de proclamer. Chacun, chacune, pour elle veut s'armer. Debout, Paris tressaille, debout. C'est la bataille, debout, Paris tressaille, debout. Mais la défaite est proche, le jour fatal. fatal approche, mais la défaite est proche. Le jour fatal approche, un cœur succombe, fusillé par rangée devant leur tombe, jurant de les venger. Debout, pas de lutte brève, debout, guerre sans trêve, debout, pour notre rêve, debout.
Bien, alors, depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Alors, je rappelle que vous retrouverez leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog du groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Et comme tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico. 145 rue Amelot, Paris 11e. Et vous pouvez aussi retrouver quelques commentaires sur notre page Facebook au fil des pages et sur la chronique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Nous allons passer au troisième temps de notre émission, on pourrait l'appeler Varia, une forme de plaisir de découvrir, comme chez les bouquinistes, en feuilletant et en furetant dans les caisses. Mais on va redonner la parole à Marie-Claire. Alors Marie-Claire, un autre poème, peut-être sur la peinture, parce que tu aimes bien la peinture.
Sur la peinture, oui, on peut, j'en ai un certain nombre. La Grasse, c'est un village donc des Corbières qui à l'époque, parce qu'on ne reste pas entre Vernon et Mantes, il y a des voyages qui sont évoqués, et qui est un village qui est devenu très célèbre depuis, qui ne l'était pas du tout à l'époque, et qui était absolument magnifique d'ailleurs, qu'il reste, et qui m'avait séduite. Alors qu'il s'y tient maintenant, un salon du livre en été. Il y a des éditeurs qui s'y produisent et qui montrent leurs livres. C'est devenu un lieu très connu. Mais ça ne m'étonne pas, parce que c'est vraiment magnifique à voir, propice aussi à la méditation, à la création. J'ai voulu te peindre, antique abbaye. Un vol de perdrix m'a suffisamment dit que nul n'a appris à t'atteindre. Où j'ai mis du jaune, c'est devenu gris. Où j'ai mis de l'ocre, brun s'est établi. Oh, c'est bien impossible que j'attends ici. Toujours en retard. D'un éclair, d'une ombre et de cent nuances pour un seul clocher. Pour ta pénitence sans recommencer. Toujours en partance, jamais arrivé. La vie ne se danse qu'à large foulée. Qu'importe l'avance ou bien l'arrivée. En ma défaillance, tu seras sur pied, mais au creux des vignes, le vol de perdrix refera le signe, le laisser passer, peindre et rêvasser, à quelle naïve contemplative.
Peindre. Eh bien, nous allons aborder la présentation d'une exposition. Alors normalement, c'est Agnès qui devait présenter ce texte et puis surtout faire le lien entre une exposition et un catalogue. Bon, elle ne peut pas être là parce qu'elle est retenue par son patron. Il va falloir donc réprimander sauvagement le patron. Alors c'est une exposition qui s'appelle Gribouillage et qui se tient jusqu'au 30 avril au Palais des Beaux-Arts de Paris. Quai Malaquais, dans le 6e. Alors, c'est une exposition qui est conçue par l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis, et les Beaux-Arts de Paris, avec le soutien du Musée National d'Art Moderne de cette même ville de Paris et le Centre Georges Pompidou. L'exposition s'est déployée en deux volets, un sur Rome, au printemps 2022, et un autre parisien, aujourd'hui. Alors, Agnès avait eu l'avantage de pouvoir parcourir le catalogue de l'exposition avant d'aller voir les originaux au musée. Originaux placés sur dans une enceinte très haute de plafond, cérémonieuse, mais comme le dit Agnès, bon, certaines œuvres pâtissent d'un certain manque d'éclairage. Peut-être était-ce pour protéger les dites œuvres. Bon, l'exposition regroupe 150 œuvres originales de la Renaissance à l'époque contemporaine. Une immense fresque à l'entrée, dont le motif laisse surtout apparaître les croquis précédents, comme des portraits caricaturés au possible, des dessins de bateaux. Nous sommes en 1471, et ces peintres ouvriers peignaient dans l'attente certaine du gain qu'ils allaient obtenir pour partir à l'aventure. Des bouts de papier dessinés au recto verso, des feuillets de fortune, des manuscrits, des éditions anciennes, des murs gravés, des gravures dont le verso témoigne de quelques gribouillages particuliers. Quelle émotion de découvrir un croquis de Rembrandt, de Michel-Ange, de Léonard, de Vinci, d'Ingres. À l'époque, il était totalement impensable de mettre en avant ce type de document intermédiaire avant l'aboutissement de l'œuvre. Là, nous voyons les étapes. Et des matrices d'estampes, des trois carrages, somptueuses au recto, habitées de multiples essais au burin au verso, d'un modernisme impressionnant, alors que nous sommes en 1590 environ. Des recherches de grisés, des portraits, des symboles. L'une des auteurs du catalogue écrit « Les Carrache finiront par instituer cette pratique de récréation dans la formation des membres de leur académie. Ils y voyaient un moment important pour se ressourcer, pour régénérer leurs idées. » Alors, on a des livres anciens, exceptionnels, encadrés de dessins caricaturaux, comme une caricature de François Ier dans un livre municipal ou d'un notaire s'exerçant à l'écriture calligraphique, se dessinant à son bureau. On remercie Dubuffet pour ses portraits légers, Giacometti pour relever comme les anciens sur son mur un gribouillage d'exception, ou encore à Basquiat. Tout est reconnaissable, tout prend sens grâce à ce subtil mélange d'époques et de courants artistiques réalisés pour cette exposition d'une grâce remarquable. Agnès souligne l'accueil, un accueil particulièrement chaleureux, particulièrement bienveillant, avec une note à l'entrée qui invite le visiteur à donner pour la visite ce qui lui semble le plus raisonnable. C'est-à-dire que vous n'avez pas un prix fixe avec temps pour les étudiants, etc. Non, c'est entre 5, 10, 15 euros. C'est vous qui mettez en fonction de ce que vous avez envie et de ce que vous pouvez. Ensuite, eh bien, parlons du catalogue. Alors, le catalogue s'appelle « Gribouillage » de Léonard de Vinci à Tombly, Villa Médicis, et c'est une édition des Beaux-Arts de Paris. Il est écrit par Francesca Alberti et Diane Bodard, historienne, professeur d'art, mais on a d'autres historiens d'art comme Dario Gamboni, Barbara Weitman, et en fait, on a rassemblé 300 œuvres. Alors, quel est le sens du mot gribouillage? Eh bien, le dictionnaire précise, c'est une inscription quelconque, sans signification. Et on attribue souvent ce terme à des dessins d'enfants qui gribouillent sur le papier. Or, là, on s'aperçoit que on est en train de mieux travailler et que la représentation première qu'on se fait du gribouillage est ancré dans la production enfantine qui prend forme avec un bonhomme fantoche ou bamboccio. Ce bonhomme incarne le début de l'art et de la création. Alors, dans un courrier, on trouve cette citation: « Quiconque commence fait ainsi et même Michel-Ange, à ses débuts, dessinait des fantoches. Alors, ben c'est passionnant parce que on peut se promener et on peut préparer sa visite avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un travail sur le catalogue. On voit l'intérêt produit par des artistes dans l'espace urbain, le street art, l'intérêt de la peinture de la préhistoire. On voit des dessins très anciens de la Renaissance. Il a été longtemps impensable d'en attribuer l'auteur, tellement le tracé pouvait paraître sommaire, voire vulgaire. Tout au plus, l'attribuait-on à un disciple, mais pas au maître. En fait, il y a vraiment un travail qui, ben, finalement, est une forme de geste social. Et la recherche de construction, du bâti, du partage avec l'autre, commençait par ce travail de gribouillage. Et en même temps, il était libérateur d'un académisme lourd et austère. Alors, on retrouvera aussi d'autres caricatures avec, ben, par exemple, Alfred Jarry, de l'Almanach illustré du Père Ubu, 1901. On pourra aussi reprendre cette citation de Picasso. Je cite « Quand j'avais l'âge de ces enfants, je dessinais comme Raphaël, mais il m'a fallu toute une vie pour dessiner comme eux. Apprendre à désapprendre et se libérer. » Enfin, une merveille ultra-moderne dans cette exposition, le tableau de Giovanni Francesco Carotto, l'enfant montrant un dessin du XVe siècle. Vous l'avez déjà vu certainement, et c'est un portrait puissant, énergique, d'un enfant aux yeux roux qui rit de son bonhomme aux grandes jambes, aux cheveux hirsutes qui se déploient sur toute la feuille. La virtuosité à rebours du peintre qui reproduit à la perfection le bonhomme puéril active ainsi une forme de critique d'art gribouillée, pour reprendre les mots de Barbara Whitman. Bref, une note pleine d'humour et de bien fondé par rapport au projet d'exposition. Alors, je vous rappelle le nom et l'adresse de l'exposition. Exposition Gribouillage, Palais des Beaux-Arts de Paris, 13 quai Malaquais, dans le 6e arrondissement. Et l'exposition se déroule jusqu'au 30 avril. Le titre du catalogue « Gribouillage » de Léonard de Vinci à Tombly. Eh bien, Agnès, c'est un peu dommage que tu n'aies pas pu nous le présenter, mais en tout cas, c'est vraiment, je crois, très important de montrer cette exposition et de mettre en valeur les catalogues, parce que souvent les catalogues sont un peu oubliés. Frédéric, un petit intermède musical. Alors, en attendant, je vous disais que c'était Varia. Hein, on est vraiment sur les quais de Seine, chez les bouquinistes, et puis on regarde un petit peu les livres qui nous plaisent, comme ça. Et là, je voulais passer plutôt au roman de la ville, hein, la série Roman de la vie. deux petites histoires racontées par un ami qu'on aime beaucoup, Thierry Maricourt. Alors, Thierry Maricourt, on le connaît comme auteur d'ouvrages tels que L'histoire de la littérature libertaire en France ou Le dictionnaire des auteurs prolétariens, mais il est également poète et auteur de romans, polyvalent ou plutôt polytalent, l'artiste. Et les éditions Le Calicot nous offre deux livres, en apparence pour les enfants, mais qui donnent à réfléchir dans et sur le monde des adultes. Le principe, très simple. Frérot Frangin, deux frères placés dans des situations opposées, s'écrivent des lettres chargées de tendresse, de conseils, de grand frère à petit frère. Le texte, c'est Thierry qui s'y colle. Il est accompagné de dessins, porteur d'émotions, de quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi, Tardy, et de Zoe. Tenez, Hôtel Zinzin, Hôtel Zonzon. Un petit livre d'une soixantaine de pages, Frérot, 11 ans, part en classe de neige, insouciant. Frangin, lui, 19 ans, est en prison, Hôtel Zonzon. Pendant un mois, les deux frères se racontent leur quotidien. Elle est triste, cette double page. Un mur gris avec des fenêtres grillagées et, à l'une d'elles, le visage triste aussi, évidemment, de Frangin. Tardy met tout son talent, le gris et l'ennui de la tôle, les relations entre détenus, les numéros, la promiscuité. Frangin demande des nouvelles à son frère. Ses lettres le font vivre, lui donnent de la lumière. Il est seul, il est triste, et vous goûterez une page très belle où Frangin tricote avec la lumière de l'extérieur. Et oui, c'est là, ce sont les lettres qui lui donnent le goût de vivre. Mais aussi, il prodigue des conseils à son frère pour ne pas disjoncter. Son frère est dans le blanc de la neige, la lumière. Le bleu du ciel, les couleurs de la vie, seront-ils un jour tous les deux dans la lumière? Alors lisez ce livre et faites-le lire. Un autre, Hôtel Hosto. Alors on retrouve les deux frères, et là c'est un autre dessinateur, c'est tout autre que celui de Tardy, et c'est un des intérêts de cette collection, c'est la diversité. Un même style rédactionnel, des graphismes différents. Frangin semble sorti de tôle. Oui, il est sorti de tôle. Il travaille dans une pizzeria et il raconte à son frère les difficultés du monde de la restauration. Les clients désagréables, le patron grippe-sous. Mais dans ce monde, il rencontre Sarah. Et la construction de la relation amoureuse est charmante. Et Frérot, eh bien lui, sa copine Inès, est renversée par un chauffard. Elle est conduite à l'hôpital, dans une situation très moche. Va-t-elle s'en sortir? Le père d'Inès est plutôt du genre méfiant à l'égard de ce mioche. Et avec les conseils de Frangin, Frérot va tenir et le père va s'ouvrir. Un côté conte de fées, mais qui donne à penser et à aimer. Alors, qui sont les éditions Le Calicot? Eh bien, je cite. Et que veut-elle? Que veulent-elles? Je cite. « Dans un monde dirigé par l'économie, où l'individu n'a sa place que dans les colonnes statistiques, Le Calicot propose aux enfants et aux adolescents des livres qui développent leur sens critique et pour rêver un monde qu'ils méritent. Des livres de fiction pour les préadolescents et pour les adolescents, des essais pour tout le monde, des livres pour se distraire, s'émouvoir, réfléchir, grandir. Un projet qui nous plaît bien. Thierry Maricourt, Frérot Frangin, Hôtel Zinzin, Hôtel Zonzon, Hôtel Resto, Hôtel Hosto, aux éditions Le Calicot en 2021. Et nous arrivons tout simplement à un moment d'histoire, puisque Dominique va nous... que nous avons en ligne. Dominique,
oui, bonjour,
tu es là?
Francis. Oui, je suis bien là.
Ah, alors, donc, tu vas nous présenter un roman d'Irène Frein, qui se fonde sur des faits historiques, la déportation des décembristes en Sibérie en 1820. Et donc là, c'est intéressant parce que quand les romans nous permettent de nous souvenir de l'histoire. Alors, peut-être quelques mots sur Irène Frein.
Oui, alors, bon, elle est peu médiatique, hein, mais j'adore cette écrivaine parce qu'elle a toujours des histoires fortes. Alors, elle est née à Lorient en 1950, dans une famille rurale assez modeste, et elle sera enseignante au lycée et ensuite à Paris 4. Alors, elle connaît son premier succès avec Le Nabab en 1982, je ne sais pas si tu as lu ce livre. C'est l'histoire d'un petit mousson, un petit mousse breton qui est devenu nabab en Inde. C'est toujours des histoires vraies, hein. Et elle nous emmène toujours très loin, vers l'Orient ou vers l'Est. Bon, il y a toujours des histoires de femmes aussi, et elle fait surtout des enquêtes très poussées. J'ai adoré aussi Les Naufragés de l'île Tromelin, qui raconte l'histoire d'un naufrage d'un bateau de la Compagnie des Indes, avec l'abandon des esclaves par les marins dans une île inhospitalière. Ils mettront des années pour aller les récupérer. Et La Forêt des 29, encore une histoire forte, hein, avec un massacre d'hommes et de femmes et d'enfants pour donner leur vie, pour protéger des arbres dans une forêt. Donc là, cette fois-ci, c'est... Alors le titre, c'est « Je te suivrai en Sibérie ». Alors elle se lance sur les traces de Pauline Noble, née en 1800 en Lorraine. Donc c'est une histoire
donc
vraie.
Donc cette Pauline, c'est vrai, quoi. C'est pas, ça fait pas partie du roman.
Non, c'est vrai. Alors, cette Pauline subit l'emprise autoritaire de sa mère. Alors, elle s'enfuit à Paris pour devenir couturière. Elle rentre dans une grande maison de confection comme simple vendeuse. Mais elle est très attirée par la Russie parce qu'elle a vu passer des soldats russes dans sa ville de Lorraine. Et elle décide de se faire engager dans une boutique de mode à Moscou. À cette époque, les relations entre les Français et les Russes étaient très, très, très bonnes. Les échanges de culture et de mode aussi. Et les Russes nantis adoraient la France. Donc Pauline, qui est une femme très romantique, va vivre un amour fou et partagé avec un aristocrate russe, Ivan Anenkov. Mais Ivan appartient au groupe des décembristes qui veut renverser, ce groupe veut renverser le nouveau tsar Nicolas Ier.
Alors c'était qui ces décembristes ?
Alors, du coup, ça m'a permis de réviser mon histoire en même temps. Donc, ce sont des jeunes hommes, hein, inspirés par le siècle des Lumières français, grande noblesse et petite noblesse désargentée, et ils étaient tous républicains. Ils voulaient aussi renverser l'Empire. Ils s'étaient organisés en société secrète avec environ 2000 soldats et officiers, et ils tentèrent le 14 décembre 1825 de renverser le tsar afin d'obtenir l'abolition de ce régime autoritaire et l'abolition du servage. Mais bon, ils n'ont pas gagné. En une nuit, les troupes des mutins furent dispersées, les corps furent jetés dans la Neva et d'autres furent condamnés à mort, hein, et 121 personnes furent condamnées à partir en Sibérie. Les femmes des décembristes eurent droit au divorce, mais 8 d'entre elles décidèrent de suivre leur mari, dont Pauline. Alors les décembristes, Chateaubriand évoquera les décembristes dans ses mémoires d'outre-tombe. Pouchkine avait des amis poètes qui étaient décembristes. Nekrassov et Alfred de Vigny vont tous saluer poétiquement ces décembristes. Pouchkine écrira « Le poète est partout persécuté, mais en Russie, son destin est le pire. »
Alors, on reprend l'histoire de Pauline là, dans cette affaire.
Oui. Alors, Ivan est parmi les déportés et devra rejoindre une prison en Sibérie, près de la Chine, à la forteresse de Chita. Et Pauline décide de l'accompagner. Alors, ça sera pas le voyage, donc Irène Frein raconte le voyage, qui sera difficile car il lui faut de l'argent. Donc, Pauline doit négocier avec sa belle-mère, qui est une aristocrate et qui n'aime guère cette petite couturière. Arrivée là-bas, Pauline va se retrouver avec des femmes, princesses ou nobles, qui ne sont pas de son milieu. Mais, bon, la solidarité féminine va jouer. Les dialogues sont rares car Pauline et son compagnon ne pourront guère se échanger. Elle se marie quand même avec lui en 1828 et aura d'ailleurs des enfants avec lui. Alors Pauline, et ça c'est le tour de force de Pauline, va harceler le directeur de cette forteresse à tel point qu'il va céder sur beaucoup de plans. Les femmes vont pouvoir leur faire parvenir des livres, des aliments, et puis donc leur faire un soutien moral.
Tout ça, c'est vrai, hein. Tout ça, c'est
historique. Oui, tout ça, c'est vrai. Oui, oui. Ouais. Elle a défié les autorités et le tsar même, puisqu'à chaque fois le directeur demandait au tsar s'il pouvait faire droit à ses demandes, et le tsar a plié. Alors, ils ont quand même fait 30 ans de prison. Elles sont sorties en 1856, et ces 8 femmes sont restées avec leur mari. et Pauline a pris d'ailleurs cette résistance en main. Alors, elle va aussi croiser des écrivains célèbres, donc c'est attesté, hein, son histoire est attestée. Avant de partir et pendant son séjour, elle va croiser Alexandre Dumas et Dostoïevski. Mmh. Alors, pour l'auteur de Crime et Châtiment, Pauline est une femme solaire fantastique, hein, un être charismatique. À l'opposé, Dumas, fidèle une héroïne dans son roman Le Maître d'Armes, et une héroïne un peu négative, parce que c'est le type même de parisienne qui font tourner les têtes aux Russes, jolie, séductrice, un brin aguicheuse. Donc Pauline lui en voudra toute sa vie, hein, de ce portrait. Hein.
Alors c'est une véritable enquête.
Ah oui, c'est une enquête. Irène Frein s'appuie sur le journal publié par la fille de Pauline. Elle invente bien sûr quelques passages qui lui semblent plausibles. Donc Irène dira à un moment donné, j'aime les traces. Oui, elles finissent par s'effacer, mais pas toutes. Et la mémoire, lorsqu'elle triomphe de l'oubli, est féroce. Alors, elle remonte ses traces. Elle a été sur place. Hein. Elle se rend sur les lieux qui hébergèrent les insurgés et leurs épouses. Elle se rend au musée des décembristes à Irkoutsk. Et elle va même à Tchita, où elle va retrouver une dame qui a gardé les livres qui ont été lus par les décembristes. Et on retrouve Montaigne, Molière, Montesquieu, Diderot, Rousseau, parce que les décembristes lisaient beaucoup les Français. Mmh. Et je termine sur une phrase d'Irène qui écrit « La curiosité a un frère jumeau, le doute. J'ai compulsé les archives, vérifié, recoupé. C'était incontestable, Pauline n'avait pas menti. La curiosité est une addiction. Plus je m'aperçois que son parcours était hors du commun, plus je m'interrogeais sur ses mobiles. » Et donc vraiment, on est entraîné dans cette enquête, hein. Presque
c'est
comme un
livre,
roman policier.
Alors tu nous rappelles le titre et puis l'éditeur.
Donc, Je te suivrai en Sibérie, paru en 2019 aux éditions
Paulsen,
oui.
Ah, c'est ça.
Oui.
D'accord.
Voilà.
Donc on peut le retrouver. Alors
oui.
Dans 15 jours, tu nous parles d'un personnage original.
Oui, aussi, toujours original. Alors, c'est un anarchiste italien, donc dont la vie est décrite. C'est aussi une enquête, hein, dont la vie est décrite dans l'Arsène Lupin des Galta de Filka Zoar. Et donc, je vous parlerai aussi de cette vie un peu hors norme.
D'accord, très bien. Merci, Dominique. À dans 15 jours.
Oui, allez, bonsoir.
Bonsoir. Eh bien voilà, chers amis, quelques livres auxquels nous tenions. Nous souhaitions vous faire partager ce plaisir et cet intérêt. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Dans 15 jours, le mercredi 12 avril 2023, nous recevrons Isabelle Louviot, autrice du livre « Élisée Reclus, penser l'humain et la terre ». Nous, on aime beaucoup Élisée Reclus. Donc, une intéressante introduction à la vie et l'œuvre de ce personnage clé du mouvement anarchiste qui a été arrêté par les Versaillais sur les hauteurs de Châtillon et de Clamart le 4 avril 1871. C'est pour ça que je trouvais intéressant de parler d'Élisée Reclus quelques jours après l'anniversaire de son arrestation, lui qui n'avait pas de honte à faire partie de la foule, qui était un intellectuel, mais qui était engagé pour l'idéal de liberté. D'ici là, bonne lecture, et l'équipe d'Au fil des pages, évidemment, vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager. Frédéric.
La cigarette sans cravate. À l'aube des contrats et le remords des coups de jatte. Avec la peur qui prend la patte, le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles.
droite sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. C'est toi que l'on dit de justice, et qui pousse dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qui n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu